Le choix de lecture de Frédéric Bruyas, mis en musique par Philippe Fest.
Un texte de Robert Sabatier, extrait de Les trompettes guerrières. Olivier lui confia quand même son passage au maquis, puis Clermont-Ferrand et Paris, à la direction de l'infanterie. Il avoua qu'il en avait marre de la guerre. « Moi, c'est différent. C'est mon job. J'ai su ce que vous faisiez à l'arsenal de Rouen. D'ailleurs, j'y étais pour quelque chose. En secret. Grâce au sabotage, il n'est pas sorti un seul obus avant la libération. Et quand les chaînes ont repris, le stock et les nouveaux obus convenaient à certains canons américains. » Olivier parla de la famille, du mauvais état de santé de Marceau. La femme du cousin habitait encore Roanne, en attendant de le rejoindre à Lyon. « Tu devrais passer la voir, hein, » dit-il. « En train, ce n'est rien. Et puis, va à l'arsenal. Tu expliqueras ton départ. Rassure-toi, tu n'auras que des compliments. » Une infirmière vint annoncer la fin de la visite. Le cousin déloge devait se reposer. Voilà bien ma tortionnaire. Me reposer, je ne fais que ça. Je lui demanderai bien un baiser, mais pour l'instant, je n'ai qu'une moitié de bouche. Mon amour, venez baiser mon front, un baiser doux et chaste. Cela amusa la jeune femme. Elle donna le baiser, et le cousin des loges fit des gestes comiques. Quand tu me reverras, dit-il à Olivier, tu seras en Pékin, peut-être moi aussi, en attendant la caserne ou l'occupation en Allemagne. Allez, salut. Olivier fit mine de se mettre au garde à vous, puis il salua militairement. C'était la première fois que cela lui faisait plaisir. Olivier se rendit immédiatement à la gare de Lyon-Perrache, où il prit le premier train pour Roanne. Durant son séjour forcé dans cette ville, il n'avait pas eu le loisir de visiter les alentours, hormis le trajet pour l'arsenal et des promenades sur le pont de la Loire menant à la petite ville du Coteau. Une fois de plus, il s'enchanta des plaisants paysages traversés. Cette fois, il ne connut aucun problème. Il avait pris un billet en troisième classe et le contrôleur ne fit aucune difficulté pour le poinçonner. Autour de lui, les conversations allaient vers l'optimisme. Un monsieur à Lorgnon commenta les articles du journal qu'il lisait. La paix s'était installée en Italie. Les Russes envahissaient Berlin. La deuxième DB avait pris Berchtesgaden. Une dame dit que tout cela n'empêchait pas les restrictions, que maintenant, les Allemands ne pouvant prendre notre pain, nous pourrions en avoir un peu plus. Bientôt, il y aurait des élections en France. Heureusement que nous avons De Gaulle, observa le vieux monsieur. Et un jeune homme ricana. Olivier débarqua assez tôt dans la gare de Roanne pour s'occuper de quelques emplettes. Il découvrit non loin un hôtel et loua une chambre, par bonheur plus accueillante que celle de Lyon, avec une douche et même l'eau chaude. Il ouvrit la valise qu'il avait récupérée à la gare de Perrache et sortit le costume prêté par Marceau. En tissu souple et de qualité, il était à peine froissé. Il le suspendit à un cintre et resta un instant à l'admirer. Il sortit, parcourut les promenades populaires où il s'était installé tant de fois pour lire, atteignit ce qu'on appelait le carrefour helvétique, côtoya la sous-préfecture, le musée portant le nom du grand archéologue d'Echelette. Il entra dans le magasin Dame de France, où il put acheter une cravate noire. Il alla jusqu'à la place de la mairie, s'offrit une bière à la brasserie Fuchs et réfléchit à ce qu'il ferait le lendemain. Tout allait bien. Cependant, il ressentait un malaise obscur, une gêne. N'était-il pas une sorte de déserteur ? Plus tard, il décida de dîner rue du Commerce, dans ce restaurant qu'il connaissait pour ses prix modestes, au Bec Fin. La jeune serveuse le reconnut. Oui, c'était bien lui qui venait habillé en ouvrier au temps de l'Arsenal. Il fit un repas qui lui sembla magnifique et l'on oublia de lui demander des tickets de rationnement. Il fit durer ce dîner le plus longtemps possible, comme s'il redoutait de se retrouver seul. Il pensa à quelques copains de cette courte époque rouennaise et se demanda ce qu'ils étaient devenus, en particulier celui qui écrivait des poèmes et entra dans la milice. Était-il mort? Vivait-il caché? Et s'il était entré au maquis? Il ne le saurait jamais. Et cette bande de fils à papa qui se planquaient à l'arsenal et rejoignaient le soir leur vie dorée? Et ce jeune garçon, fils d'un épicier et cordonnier de son état, qui lui avait donné la moitié de son casse-croûte? Se levant, il vit à une table du fond un garçon qu'il connaissait. Il se souvint, tourneur à l'arsenal. Il se mêlait des sabotages. Petit, maigrichon, un visage que son nez en trompette rendait comique, il aurait pu être le correspondant rohanais du Titi parisien ou, mieux, du Gaune lyonnais. Il parlait avec l'accent caractéristique des milieux populaires de la ville et utilisait des expressions à mi-chemin entre le lyonnais et le stéphanois. De retour dans sa chambre d'hôtel, Olivier décida de redevenir pour quelques heures un civil, un Pékin, comme disent les militaires. Il y prit plaisir et caressa la belle laine de ce costume, redressa le nœud de cravate. Jamais il n'avait été aussi bien vêtu. Il remercia Marceau en pensée. Dehors, il décida d'une longue promenade dans la ville, s'arrêtant devant les vitrines pour contempler son reflet. Était-ce bien lui, ce jeune gandin qui s'efforçait de prendre un air dégagé et sûr de soi? Il pensa aussi que son portefeuille était bien garni. Cela lui donnait une sorte d'indépendance. Bien sûr, au bout de tout cela, il y aurait le retour à la caserne, mais il tenta de l'oublier. Il prit l'avenue Gambetta pour se rendre jusqu'à l'église Saint-Étienne. Son costume n'était pas saillant. Le veston était trop long et il devait tirer sur son pantalon pour le faire remonter. Il s'avoua qu'il se sentait mieux à l'aise dans son uniforme. Il pénétra dans le lieu de culte et s'assit un instant pour méditer. Des images le traversèrent. Il se revit avec son oncle Henri au bazar de l'hôtel de ville. Il était de tradition qu'un apprenti achetât ses propres outils. Là, il avait fait l'acquisition d'un typomètre, d'une pince typo et d'un composteur. Cela sur ses économies. Mais l'oncle lui avait glissé un billet dans la poche. Il pensa à l'atelier, à ses outils rangés dans une sacoche. Il sortit et marcha jusqu'à la rue du lycée. Là, il entra dans la librairie L'Auxerrois, où il s'attarda à regarder les livres sur les comptoirs et les rayons. Il pensa à tout ce qu'il n'avait pas lu et finit par se décider à une petite folie. Il acheta une édition des œuvres complètes de Diderot. Il sortit avec le livre emballé dans du papier blanc.
Takes you for a spin, ooh la la la. C'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la. C'est magnifique.
C'était la lectrice de RVR, Frédéric Brouillasse.